Well, let's go. Come on.
Okay.
Let's do a podcast.
Crack on.
I don't prepare my question, so I'm...
Oh, come on, it's not a very good podcast. Let's go.
No, just...
Quand on voyage en voiture, on fait des pauses. Et pendant ces pauses, on rencontre des personnes. Ce soir-là, à Todcaster, on parle profession. Et vous, c'est quoi votre métier de rêve ?
Porn star, obviously.
Porn star, évidemment. Ben voyons. Et pourquoi ?
Having sex with beautiful women all the time, I mean...
Coucher avec des belles femmes tout le temps, je veux dire, c'est évident. Et en deuxième choix ?
Politician to change the world.
Eh ben, pourquoi pas ? Et comme avec ce petit jeu pour lancer le podcast, on s'amuse visiblement très bien à notre table, avec Jim et sa tante Sophie, il y a un mec qui s'invite avec nous et qui semble vouloir plus ou moins participer.
I can tell you about some things of me.
Ouais. Alors, je sais que je suis pas un expert de la langue, mais il y a des fois... ouais, non, faut pas abuser. Mais bon, je suis sympa et lui, il est bourré. Alors, je persévère. Mais qui es-tu ?
I'm Andy Carewood, the best fisherman in Todcaster.
Le meilleur pêcheur de Todcaster.
I'm the sheriff.
Le sheriff des pêcheurs de Todcaster. Et oui, monsieur, dame, je ne suis pas accueilli par n'importe qui ici. Bon, lui, il est un peu relou. Mais Sophie et Jim, ils sont sympas. Même très sympas, parce qu'ils me font passer une super soirée dans un village qui, à la base, n'était pas super accueillant. Et ils refusent catégoriquement de me laisser dormir dans ma voiture, donc ils me proposent de squatter leur canapé. Ce qui est vraiment très cool, parce que ce soir-là, il fait vraiment très froid. Et après un réveil un peu difficile, mais au chaud, on repart. Objectif, Écosse. Et comme j'ai encore jamais mis les pieds sur la route, je suis comme une folle. J'ai tellement hâte de passer la frontière. Le problème, c'est que...
Je sais pas quand est-ce que je vais passer l'Écosse, en fait. Je pense qu'il y aura sûrement un panneau ou une annonce.
Eh ben, je sais pas du tout où je suis. Donc j'essaie de trouver des indices.
La végétation est déjà plus la même. Tous les arbres sont oranges ou jaunes ou sont plus déjà de feuilles. Bon, évidemment, des moutons partout.
Mais sans déconner, il n'y a pas de panneau. Ou alors que des noms de villes que je connais pas, donc ça m'aide pas vraiment à me situer. Mais bon, je crois qu'on se rapproche, les indices se précisent, il n'y a pas que le paysage qui change.
£30,000 and you can be our winner just by texting the word yes to 61825. You can get that call from Stephen. Yes to 61825. What we'll do is freeze the lines at 4 o'clock and then that call might come to your phone. If we phone you, just answer within 5 rings, but do not say hello. It's such an important rule and it's happened a few times. I don't want to happen for you this afternoon. I need you to pick up the phone within 5 rings and scream, show me the money. That's how you win £30,000. You gotta give us some gusto. It's a bit of fun, isn't it? £30,000.
Ok, j'étais pas vraiment prête pour ça. Alors, objectif numéro 1, essayer de pas trop prendre l'accent. Mais on s'en fout parce que là c'est bon, je vois un panneau, je suis en Écosse. Je continue la route et j'arrive à Édimbourg. Bon là, pas de doute possible. Et Édimbourg, c'est une des plus jolies villes que j'ai vues pour l'instant. Avec le château, les vieilles rues et toutes les montagnes, c'est un truc de féerique. Je vais rester uniquement une nuit et finalement ce sera deux. Parce que, version officielle, une journée, c'est loin d'être assez pour tout voir, ce qui est vrai. Mais c'est surtout que, le soir, à mon auberge, après une bonne journée de visite, je me fais copine avec deux nanas. Une qui vient d'Aberdeen, et l'autre qui vient de Bulgarie et qui étudie en Angleterre depuis 2 ans. On se boit quelques verres, et puis on part faire la fête en ville. Ce qui est cool à Édimbourg, c'est qu'il y a 1 million de petits bars qui proposent des concerts gratuits tous les soirs. Nous, on est enterrés dans une soirée rock 90 assez stylée.
Dans notre épopée, on croise le groupe d'Espagnols qui bossent comme réceptionnistes à notre hôtel. Et comme ils sont super cool aussi, et ben on finit la soirée ensemble au petit matin. Ce qui est bien pratique parce que, comme ils ont les clés de l'auberge, on galère pas trop à rentrer. Au passage, dans un des bars d'Édimbourg, je rencontre Jen, qui nous vient de Belgique, mais qui a habité un petit moment à Châteaulin. Et ouais, le monde est petit. On s'entend super bien et on se dit que ce serait cool de faire un petit bout de voyage ensemble. Mais elle m'annonce qu'elle doit partir le surlendemain pour aller visiter les Highlands et dormir à Inverness. Et bah, qu'à cela ne tienne. Après une journée de repos à l'auberge, j'enfile mes docks, je ramasse mes affaires et je file dans les Highlands. La route d'Édimbourg à Inverness, c'est juste incroyable. Je sais que je le dis souvent, mais à chaque fois je suis sincère. Je crois que je peux pas trouver mieux. Mais là, entre les montagnes et les lacs, c'est à couper le souffle. On se sent tout petit, mais le risque, c'est de finir dans le décor parce que tu peux pas décrocher tes yeux du paysage. Mais une fois arrivé à Inverness, je suis un peu déçue. La ville, ou en tout cas le centre-ville, c'est pas très grand, pour pas dire minuscule, et t'as très vite fait le tour. En fait, c'est plus un port industriel. Même si on adore les villes portuaires industrielles, là, c'est vraiment pas très beau. On a quelques rues sympas vraiment dans l'hypercentre, mais c'est à peu près tout. Et alors, les fans de la série Outlander n'allaient pas là-bas pour faire un pèlerinage des scènes de la série, parce que très clairement, il n'y a rien qui a été tourné sur place. Mais bon, c'est pas très grave, parce que moi, j'ai rendez-vous avec Jen, que je retrouve assez rapidement, et rebelote, on retourne au bar. Une fois encore, sacrée soirée. On rencontre des gens de tout horizon, américains, écossais, belges, italiens. On s'éclate bien. On s'éclate même tellement que je finis par passer la nuit en loosé sur la moquette de la chambre d'hôtel de Jen. Ouais, au moins, ça coûte pas cher. C'est bien que le lendemain...
Bon, alors là, je suis en route pour le Loch Ness. Je suis sur les petites routes un peu paumées dans les Highlands. Bon, j'ai le GPS, a priori, je crois que je vais m'y retrouver. Alors, j'ai un peu la tête dans le cul puisque j'ai un peu fait la fête hier à Inverness avec une copine. Bon, ça va le faire. La journée rando, je vais assumer.
Ouais, bah, j'ai quand même dû bien paumer parce que j'ai pas réussi à trouver de réel accès pour aller autour du lac. Enfin, pas pendant un petit moment, mais heureusement...
J'ai trouvé un parking sur la route, où il y a juste un tout petit chemin. Ok, je vais toucher le Loch Ness.
Et comme je suis contente, eh ben les bonnes idées, elles reviennent.
Et je vais emporter un petit peu d'eau avec moi.
Et après un arrêt obligatoire dans les boutiques à touristes pour trouver un mythique chapeau Nessie, je reprends la route vers Fort William. Objectif, bah y passer la nuit et reprendre encore la route pour arriver cette fois-ci jusqu'à Ardornicht Estate, le domaine où je dois travailler pendant 2 semaines, qui en gros se trouve juste en face de l'île de Mal, donc entre 1h30 et 2h de Fort William. Et là pareil, Fort William, c'est pas super mignon. Alors ça a le mérite d'être au pied du Glen Nevis, qui est le plus haut sommet de Grande-Bretagne. Donc en termes de randonnée, là, il y a de quoi faire et c'est merveilleusement beau pour le coup. Mais sinon, ben, c'est à peu près tout. Moi, je décide d'aller à Steam Waterfall. C'est incroyable. Mais après ma petite randonnée matinale, il est déjà temps de rejoindre mon nouveau lieu de travail. Mais il y avait un petit détail que j'avais pas trop capté. C'est qu'on arrive sur une presqu'île qui est tellement isolée que pour m'y rendre, je dois prendre un ferry. En fait, pour me rendre à peu près n'importe où, bah, je dois prendre un ferry. Et c'est 9 livres à chaque fois, aller et retour. Donc ouais, c'est un budget. C'est un peu long, c'est un peu chiant, et tu te demandes pourquoi ils n'ont pas tout simplement construit des putains de ponts. Mais au moins, le podcast n'aura jamais autant bien porté son nom. Et après 2 heures de conduite et de ferry, sur des routes à une seule voie, à flanc de falaise et de lacs perdus au milieu de nulle part, sous une pluie battante et un brouillard aussi épais qu'une purée de pois, sans parler des moutons et des cerfs qui se baladent au milieu de la route à tout moment, j'arrive au domaine. Je suis accueillie par Suzy et Dean, qui sont les jardiniers du domaine d'Artornich, et concrètement mes patrons pour 2 semaines. et ils sont géniaux. Je m'entends bien avec eux direct, on déconne tout de suite. Alors eux, ils sont pas écossais, tant mieux pour l'accent, mais anglais. Ils viennent de Cornouailles et ils sont arrivés il y a seulement un an ici. Bon, ce qui fait que je les comprends très bien. Alors ils m'expliquent rapidement quel genre de travail je dois fournir, c'est-à-dire aider Suzy dans le kitchen garden et parfois Dean dans le parc de l'hôtel. Parce que ce domaine, au nom imprononçable, il est très, très vaste. Les propriétaires détiennent une bonne partie de la presqu'île, c'est-à-dire environ 15 000 hectares. Mais nous, on s'occupe uniquement de la partie exploitée. Donc le parc du château, qui est devenu un hôtel, et le potager. Mais c'est déjà un très, très beau terrain. Et clairement, à deux, Dean et Suzy, ils s'ennuient pas. Après notre thé, Dean m'accompagne jusqu'à mon futur lieu de vie, dans la petite ville de Loch Allyn, à 10 minutes du domaine. Enfin, j'ai pas trop compris où commence et s'arrête le domaine, mais en tout cas, c'est à 10 minutes de là où je travaillais. Et la maison des woofers, elle est isolée tout au bout du village, si bien qu'en fait, on est complètement au bord du lac, et notre living room a une vue imprenable sur l'île de Mal, qui est à peine à 10 minutes en ferry. Donc, cadre de vie assez officine. Sachant qu'on dispose d'une maison gigantesque à partager seulement à deux. Et ouais, parce qu'avec le Brexit, les woofers, ils sont pas nombreux à taper à la porte, et particulièrement dans des endroits aussi reculés et difficiles d'accès comme celui-ci. Du coup, je rencontre Julia, une Américaine de 34 ans qui nous vient de Washington DC pour étudier la gestion d'une culture dans le cadre de son travail et repartir ensuite au Togo pour aider à l'amélioration des cultures agricoles dans les villages. Donc projet méga stylé. Julia, elle est intéressante, et au-delà de son projet hyper stylé, elle est du bon bord politique américain, c'est aussi une activiste pour l'écologie et le féminisme, elle est fun. Elle est un brin alcoolique, je l'ai jamais vue sans un verre de vin à la main en fin de journée, mais surtout, elle a un petit chiot. Un épagneul de 2 mois qui s'appelle Tiller, dont je tombe éperdument amoureuse au premier regard. C'est la boule de poil la plus mignonne que j'ai jamais vue. Mais à part le vin et le chiot, il n'y a pas beaucoup d'animation là où on habite. Pour pas dire pas du tout. Julia me raconte que les seules interactions humaines qu'elle a en dehors du travail, c'est les groupes de pêcheurs qui viennent hebdomadairement d'Écosse ou d'Angleterre, juste devant chez nous, pour pêcher dans le lac. Qui est un spot très renommé, paraît-il. Sinon, au bar du petit hôtel à 2 minutes de chez nous, on peut rencontrer la faune locale. C'est-à-dire des bûcherons, des pêcheurs et des éleveurs de moutons. Bon, et comme elle est là depuis 3 semaines, elle commence un peu à se faire chier. Alors ensemble, on fait la seule chose qu'il y a à faire. On se promène. Encore et encore. Et oui, elle apporte toujours du vin. Bon, ce qui est quand même super cool en Écosse, c'est que comme t'as l'impression d'être dans un parc naturel géant, c'est pas très compliqué de trouver des balades super stylées. Et ce qui est encore plus cool en Écosse, c'est que tu peux te balader partout. Mais vraiment, partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terrain ou d'endroit que tu puisses pas traverser. En voiture, à pied, ou même rester campé. En fait, si tu tombes sur un portail ou une porte qui marque l'entrée d'une propriété ou autre, tu l'ouvres, tu peux passer et te balader. Ou même rester campé. Tu peux camper où tu veux. Du coup, il y a des campeurs partout, même dans des endroits hyper improbables. En fait, il n'y a pas d'endroit interdit. Alors moi, j'étais un peu étonnée la première fois que j'ai entendu ça. Mais je vous raconte pas la tête de Julia, qui elle a littéralement le droit de tuer la personne qui met un pied dans son jardin. Mais ici, c'est légal, tu peux aller où tu veux. Et on peut même aller s'abriter dans des petites maisons construites pour les randonneurs ou travailleurs en campagne, ou juste loin des villes, des sortes de refuges en fait. Avec nourriture déjà fournie à l'intérieur et tout le confort basique. Voilà, ça c'est la mentalité écossaise. On en est loin, hein. Bon, sauf que toute cette mentalité là, et ces lois, moi je les connaissais pas en arrivant. Si bien qu'en voulant aller visiter l'ancien château d'Artornish, tout au bout de la péninsule, je suis tombée sur un portail. Donc je me dis, merde, mon GPS déconne, faisons demi-tour. Sauf que les routes là-bas, qui a une seule voie, et bah cette voie unique, elle est pas large du tout, donc pas le choix. On recule en ligne droite, sur une route qui ressemble plus à un petit couloir boueux et plein de trous et de cailloux, tout doucement, et boum! Dans le fossé, mais pas le petit fossé, hein, non. Le méga fossé bien vénère qui fait que ma voiture est à la diagonale et que ma roue avant droite touche plus le sol. Oupsie. Bon, alors là, je viens de tomber dans un gros ravin. Ma voiture est toute pas droite. Et je suis perdue sur la route. Et le problème, c'est que j'ai quasiment plus de batterie. Et je sais pas trop quoi faire, parce que je sais pas où est le garage le plus près d'ici, ou le dépanneur qui pourra me sortir de là. Ouais, j'exagère un petit peu avec mon ravin. Mais je suis un peu paniquée aussi. Faut dire que je suis sur une route paumée à 20 minutes du domaine, qui va faire nuit dans 30 minutes, et qu'il me reste plus de batterie. Bref, tout va bien. À ce moment-là, j'ai pas mille solutions, j'appelle ma boss. Allô Suzy ? Heureusement, elle est super cool. Je lui demande où est le garage ou le dépanneur le plus proche. Bon, elle me dit qu'il est à 2 heures de voiture et qu'il faut prendre un ferry. Ah bah c'est super pratique tout ça. Bon, elle me dit aussi de pas paniquer, qu'ici on s'entraide. De toute façon, pas le choix. Et qu'elle va venir me retrouver. Heureusement, en sortant de chez elle, elle tombe sur Davy, qui est au domaine le gars chargé de tracter les gros engins. Ouais, le coup de chance. Bah, lui décrit ma localisation, il s'étudie direct, donc il saute dans le Land Rover et vient de me retrouver. Sans déconner, on a bien dû mettre 15 minutes à me sortir de là. J'ai eu très peur, mais la voiture a rien, donc ça va. Toute cette histoire m'aura coûté 11 pintes de bière pour remercier David de m'avoir secouru, et la super réputation de la petite gogole française qui se met dans le pétrin et qu'on doit secourir. Et tout ça, mon premier jour de travail. Mais ça aurait pu être pire. Surtout que ça me fait une super histoire à raconter en rentrant le soir à Julia, qui éclate de rire et qui se fout bien de ma gueule. Je suis bien ici. La maison est cool, la coloc oufissime, le travail génial, je parle pas du paysage. Ça me fait un peu chier de rester pour 2 semaines. Et le pire dans tout ça, c'est qu'un soir, Julia m'annonce qu'un de ses amis woofer a déjà passé quelques temps dans la famille dans laquelle je dois supposément aller après celle-ci. Et ils ont pas l'air si sympas que ça. En gros, aucun respect des horaires de travail convenus à la base. Une fois la journée de travail terminée à la ferme, tu dois regagner ta chambre uniquement pour dormir, parce qu'il y a toujours une corvée à faire dans la maison. Interdiction d'utiliser ton portable ou ton ordinateur dans la maison, ni aucune de leurs affaires, y compris le matériel pour cuisiner. Tu dois manger comme eux et pas autre chose. De toute façon, pas de possibilité d'aller faire les courses sans eux, parce que s'ils sortent de la maison, tu dois sortir avec eux, parce qu'interdiction de rester seul, et qu'il n'y a pas de temps libre à côté. Ah, et comme ils sont contre la télé, le soir, tu dois jouer au Scrabble. Non mais, ce cliché, bonjour les cutéreux fascistes, quoi. Pas cool. Je sais pas trop quoi faire, là. Bon allez, advienne que pourra. On verra dans 2 semaines.